Aujourd'hui, dans Parlons Ferme, on va vous parler de cheval. Et pour changer un petit peu, parce que ceux qui ont suivi l'actualité de la vie agricole ces derniers temps, on a beaucoup parlé de cheval de course. Mais là, on va vous parler de race canadienne, du cheval canadien. On a avec nous Gilles Racette. Gilles Racette, vous êtes président de l'Association québécoise du cheval canadien. Vous êtes vous-même éleveur de chevaux canadiens. Je pense que vous me confiez, avant l'entrevue, vous avez 8 chevaux qui vous appartiennent, ou du moins que vous élevez. On va échanger avec vous, mais d'un premier temps, moi j'aimerais ça surtout comprendre l'historique du cheval canadien. On sait que c'est un peu l'ADN du Québec, le cheval canadien. Expliquez-nous en quoi ce cheval est l'ADN du cheval canadien et comment on retrouve aujourd'hui des chevaux canadiens au Québec.
Dans cette partie de l'Amérique du Nord, il n'y avait pas de chevaux. Et les Français qui s'étaient établis ici, qui avaient créé une colonie à partir des années 15, du milieu des années 1500, mais au milieu des années 1600, c'était le gros de l'immigration. On commençait à avoir besoin d'équipements pour cultiver, pour travailler. Il manquait on avait des bœufs, parce que Champlain avait amené des bœufs à partir de 1608 ou un peu après. Mais on avait besoin de chevaux. Alors, on a importé de France un certain nombre de chevaux qu'on a amenés ici à partir
qui provenaient de la Normandie, je pense, hein, au départ.
En grande partie, oui. En théorie, ça venait des écuries de Louis XIV, du Roi Soleil. C'est sûr qu'il ne devait pas les garder dans sa cour en arrière, là, mais c'est venu en grande partie de Normandie, en comté de 1665.
Okay. Puis on parle, je pense que dans les recherches qu'on a pu faire, on nous dit qu'il y avait à peu près 12 juments, 2 étalons qui sont arrivés de France. C'est comme ça que ça a parti, en fait. Hein?
Dans les premiers voyages là, qui sont arrivés, mais ça s'est échelonné aussi dans les années qui ont suivi. Fait que il s'est perdu des chevaux en mer aussi parce que la traversée était particulièrement difficile là, sur des rafiots de bois. Mais il y a peut-être 80 chevaux là, qui ont survécu.
Qui a amené les chevaux? Parce que là, vous dites que ça partait de chez Louis XIV, ou du moins de la cour de Louis XIV au départ?
C'est les autorités de la Nouvelle-France avec la mère patrie. La Nouvelle-France était une colonie de la France.
Donc c'est la noblesse qui a amené les chevaux, en fait.
C'est la noblesse qui ont... Les chevaux ont été amenés pour le clergé, pour les notables de la place, mais on prévoyait aussi, et c'est ce qui a été fait, d'en laisser à des cultivateurs, des habitants, les gros cultivateurs.
Alors, au fil des siècles, là où on parle de Champlain, on parle de début 1600, au fil des siècles, il y a de plus en plus de chevaux, ça monte jusqu'à quoi? 5 000, 10 000, 15 000 chevaux?
Ça monte jusqu'au point qu'il y en a trop, puis on veut essayer de faire accepter par les habitants d'en manger, parce qu'il y a des périodes de disette, mais les gens ne veulent pas. Alors, il y a peut-être... 15 000 chevaux, 13 000, 12 000, un nombre important.
Puis qu'est-ce qui fait la particularité de cette race-là, en fait? D'abord, décrivez-nous un cheval canadien, c'est quoi? C'est un petit cheval noir, mais...
Je ne suis pas nécessairement un petit cheval noir. On a eu maintenant... c'est un petit cheval, en effet. Noir, c'est des modes qui sont peut-être passagères. C'était souvent noir, mais ça... À l'origine, ce qu'il était quand il est parti et ce que c'est devenu quelques douzaines d'années après, faut penser que les gens ont changé totalement de climat, de région. Alors, les chevaux hivernaient avec ce qu'on avait ramassé pour eux autres. Alors, bien souvent, ils finissaient l'hiver en mangeant de l'écorce d'arbre parce qu'il ne restait plus grand-chose. Fait que forcément, les chevaux qui étaient les plus coriaces ont survécu. Ça a amené une
Mais d'ailleurs, on dit que le cheval canadien est un cheval robuste, effectivement, mais est-ce que le cheval était robuste et c'est pour ça qu'on l'a amené de France, ou il est devenu robuste face à l'hiver québécois?
Ben, il y a un peu des deux, mais c'est surtout la deuxième partie, qui est, parce que ceux qui n'étaient pas robustes, ils n'ont pas survécu. Mm-hmm. C'est ceux qui étaient vraiment, vraiment les plus coriaces qui ont survécu, et c'est ceux-là qui ont engendré les générations successives. C'est parmi les plus résistants.
Alors, les chevaux se sont accouplés entre eux. En fait, ça a fait des races canadiennes dont on reconnaît aujourd'hui. Puis on parlera tout à l'heure de la classification patrimoniale qui est arrivée en 99, je crois. Mais à la base, le cheval canadien, il devient le cheval canadien, donc ce qu'on admire, en fait, parce qu'ils se croisent entre eux.
C'est la formation de toutes les races. C'est l'isolation géographique qui fait qu'on forme des races dans une région donnée. C'est le fait qu'il n'y a pas d'apport de sang étranger. Il n'y a que ces chevaux-là. À ce moment-là, on ne castre pas les mâles. Ça ne faisait pas partie des choses que les gens faisaient. Et les chevaux sont laissés en liberté. On clôture les jardins plutôt que mettre en clos les animaux. Alors, les chevaux sont en liberté, se reproduisent, et on se retrouve 50 ans plus tard avec une race qui s'est bien formée, avec tous les survivants de ces chevaux-là qui sont sur place.
Puis ils ont des particularités, parce qu'on me disait, en fait, par exemple, parlez-nous de la crinière, parce que je sais que dans les crinières, ils ont quelque chose de particulier, parce qu'ici, il y a des mouches, puis ça pique. Hein.
C'est ça. C'est la queue qui est le chasse-mouche par excellence, mais devient important. Puis les chevaux, la nature aide. Alors, ils développent une queue qui est fortement... qui est très forte, une forte crinière, le crin abondant, crépu, long.
Ça, c'est pour se protéger des insectes.
Ça, c'est les mouches dans le visage, le crin qui couvre les yeux et une bonne partie de la face. Et du coup, c'est devenu une des caractéristiques de la race.
Comme les sabots qui s'élargissent. En fait, on comprend, à travers ça, on comprend que la génétique, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'on s'adapte à son milieu, en fait, et on se développe en fonction de son milieu.
Oui, c'est ce qui arrive avec une foule de choses. On parle, dans le cas de chevaux canadiens, de petites oreilles courtes des grandes oreilles, ça fait de la place pour plus de mouches, si on veut simplifier, là. Mais d'un cheval à l'autre génération, mais tranquillement, ils s'installent. Ces chevaux-là survivent mieux, se développent mieux parce qu'ils ont ces caractéristiques-là. Est-ce que les autres meurent? Probablement pas, mais ça aide, disons, à la survie de la race.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les périodes de famine où on a essayé de faire manger du cheval canadien aux gens, ça n'a pas trop marché, mais il y a les périodes de guerre aussi. En fait, quand il y a une surpopulation, ça a été une alimentation ou ça n'a pas été? On a essayé ou ça a réellement été une alimentation?
Quand
vous disiez tout à l'heure que dans les périodes de disette ou de famine, on a tenté de faire manger du cheval canadien à la population, vous avez dit que les gens aimaient peur trop ça. En période de guerre, il y avait aussi peut-être... Est-ce que finalement, on en a mangé du cheval canadien ou ça a pas passé le cap de l'alimentation?
J'étais pas là, mais ce qu'on me dit, c'est que ça n'a vraiment pas passé. Les gens, est-ce que c'est arrivé à quelques reprises? Fort probablement, mais comme politique, ça n'a pas fonctionné. Les gens ne voulaient pas, étaient attachés à leurs chevaux, puis ils voulaient pas, puis il y en avait dans chacune, une des raisons pour laquelle on voulait descendre le cheptel, c'est qu'il y a toutes les familles en avaient finalement plusieurs. Puis,
puis en fait, on avait le cheval canadien pour le travail. C'est un cheval de travail.
On avait le cheval, forcément, c'était pas pour le loisir et la société de loisirs n'était pas encore arrivée. Les chevaux-là étaient là strictement pour des raisons utilitaires. Alors le transport, le travail des champs... Que ce soit le labour.
Vers quelle période on commence à sentir qu'il y a moins de chevaux canadiens? Est-ce que c'est vrai que les Américains en ont acheté et que c'est un peu eux qui ont un peu créé la dynamique?
Les Américains, la frontière. la frontière n'était pas, il n'y avait pas de droit de douane encore, là. Alors la frontière était particulièrement poreuse, c'était pas clairement établi que c'était tel territoire un ou à l'autre, alors on franchissait allègrement cette frontière-là. Il y a eu la guerre des sécessions, mais il y avait eu la guerre de l'indépendance, et à toutes ces périodes-là, les déplacements se faisaient qu'on tire l'artillerie, les canons avec des chevaux pour les emmener sur les lieux des champs de bataille, qu'on déplace les officiers, mais même aussi souvent des troupes de cavalerie. Quand l'ennemi tire dans le tas, bien, mais souvent le tas qui est le plus gros, c'est le cheval, alors les chevaux périssaient souvent. Il y avait toujours une demande de chevaux de plus en plus grande. Puis ben, ici, ils venaient d'en chercher. Puis c'était un cheval qui était particulièrement recherché, à ce qu'on dit. Sa rusticité, c'est un cheval qui ne mangeait pas beaucoup, qui était rustique, qui avait de bons pieds, qui était vigoureux. Alors, oui, il y avait beaucoup de demandes.
On peut dire que les Américains qui visent nos ressources en eau aujourd'hui visaient déjà nos ressources autres, nos ressources à l'époque.
Ouais.
C'est une histoire qui se répète, M. Rasset.
Exact.
Et d'ailleurs, il y a les Américains, finalement, comme vous dites, qui ont acheté des chevaux par milliers, qui ont reconnu leur robustesse et qui les ont utilisés aussi dans les guerres de sécession, entre autres, la guerre de sécession. Mais il y a aussi ensuite la mécanisation. Parce qu'en fait, à un moment donné, on passe à une autre époque. Les labours se font autrement. Ça aussi, ça a nuit au développement de la race.
Ben, si on parle de mécanisation, là, on est rendu un peu plus loin. Là. On a passé un petit peu plus loin. Moi, je parlais de travaux agricoles un peu plus tôt, mais je pense que des charrues avec des socles de bois, on remonte pas mal dans le temps. Là. On a dépassé la conquête. Et les Anglais ont pris le contrôle du pays. Et l'Angleterre, au niveau de l'agriculture, l'Angleterre était passablement en avance. Là. Alors forcément, la machinerie agricole va arriver avec ce qui, par la suite. Puis ça, ben, les chevaux vont être utilisés beaucoup sur la, ça va être une bonne partie de leur travail. Ça va concerner l'agriculture.
Donc, on pourrait dire que c'est plutôt vers le 20e siècle, quand la mécanisation prend vraiment place, que là, on voit un changement et une chute du cheptel, on va dire?
Ben, la mécanisation se fait avant le 20e siècle. Ce qui va arriver au milieu vers les années 1920 ou 1930, les chevaux lourds vont arriver d'Europe. Les chevaux, alors on parle de percherons, de belges, fort probablement de Clydesdale aussi. Alors, il y a des là, à ce moment-là, mais la machinerie, le cheval canadien est un petit cheval comparé à ces chevaux lourds-là. Mais la machinerie agricole va évoluer aussi, puis la machinerie agricole, qui était relativement simple, et petite avant, va grossir parce que les surfaces cultivables deviennent plus importantes. Fait qu'on utilise des chevaux, une machinerie plus lourde, plus pesante. Le cheval est encore quand même utilisé. Le cheval canadien est reconnu pour sa rusticité puis pour être très vigoureux, mais il était désavantagé peut-être par le poids, mais il se reprenait dans d'autres domaines.
Alors, on va vivre au fil des différentes décennies du 20e siècle. On va constater qu'il y a quand même moins de chevaux canadiens, du moins en exercice, par de facto. Est-ce que ça va allumer des lumières un petit peu? Je pense que oui, parce qu'on voit qu'en 1999, on reconnaît la race comme patrimoniale, ce qui n'était pas le cas. On dit que c'est le cheval, l'ADN du Québec ou du Canada, mais ce n'était pas reconnu avant
1999. On va retourner en arrière un petit peu pour revenir brièvement. La Société des éleveurs de chevaux canadiens a été fondée à la fin des années 1800, là, en 1895. Pour, finalement, ces chevaux-là avaient la réputation... C'était des chevaux canadiens, on les reconnaissait, mais il n'y avait pas de documentation qui disait tel cheval, c'est un Canadien ou tel. Alors, on a regroupé un certain nombre d'animaux auxquels on a donné des papiers d'enregistrement et on a bâti le cheptel à partir de ces chevaux-là. Puis les générations qui ont suivi ont été enregistrées. Or, à un moment donné, pour une foule de raisons, l'arrivée du tracteur, qui est une des plus importantes, les chevaux vont commencer à décliner, la population de chevaux vont commencer à décliner. On n'est pas rendu à la société de loisirs, là. Alors, les chevaux, si on ne s'en sert pas, on n'en a pas de besoin, on nourrit pour rien, fait que... Ça arrive pour le Canadien comme ça arrive pour les autres races, les nombres baissent. Puis,
oui, parce que la problématique du cheval canadien, on la connaît dans la vache canadienne, on la connaît dans la poule Chanteclerc.
Ouais,
ça fait partie aussi de races qui ont été comme en danger, on va dire.
Bon, la vache canadienne, qui comme race, est plus vieille que le cheval canadien. Ici, la vache canadienne a été amenée au temps de Champlain, là, après, autour de 1608 ou un peu après. La poule Chanteclerc, nos ancêtres, les Français, avaient amené non seulement des chevaux, des vaches, des poules, ils avaient amené des chèvres, ils avaient amené des moutons, ils avaient amené des cochons, ils avaient amené ce qu'il y avait... Toutes ces races-là se sont perdues au cours des siècles qui ont suivi. Après la conquête, les Anglais ont emmené leurs animaux. Les populations se sont mêlées, les races se sont dissoutes. On a perdu trace des races comme en tant que race pure. Puis à un moment donné, nos chevaux qu'on avait enregistrés à partir de 1895, on a continué... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ont été perdus, là, puis qu'on a pas, mais on a gardé un cheptel enregistré.
Mais ça a pris 100 ans, parce que vous parlez de 1895, quand on commence à enregistrer le cheval canadien dans ses normes, et on parle de 1999, quand le Québec reconnaît la race patrimoniale, c'est que ça a pris 100 ans pour que les autorités se disent « oui, il y a une race à sauver ».
Ça a pris 100 ans pour que le gouvernement le reconnaisse. Ça ne veut pas dire que les éleveurs ne le reconnaissaient pas. La race existait pareil et ces chevaux-là étaient quand même enregistrés. Il y a pression auprès du gouvernement de l'époque pour qu'on reconnaisse, qu'on donne une certaine reconnaissance à la race ancestrale, la race qui vient d'ici. Puis c'est de là qu'on reconnaît en 1999 que ça fait partie des races patrimoniales. La poule Chanteclerc, ce n'est pas une poule ancestrale, c'est-à-dire c'est une poule ancestrale, mais qui remonte au début des années 1900, qui a été refaite par le frère Wilfrid, des trappistes d'Oka, parce que nos poules ancestrales avaient totalement disparu. Or, il a reconstitué à partir de races existantes ici une race qui s'adaptait à notre climat. On parle de poulailler pas isolé, là, on parle de poules à double fin, c'est-à-dire à chair et à œuf. Alors, c'est une particularité qu'on a voulu reproduire. Et cette poule-là, on lui a donné un titre de poule ancestrale, mais elle n'a pas le même vécu que les chevaux ou que la vache. C'est pas plusieurs centaines d'années, c'est 100 ans.
Oui. Alors que le cheval canadien, c'est 350 ans d'histoire.
C'est 1665, si on reconnaît l'arrivée des chevaux, des premiers chevaux ici, c'est 1665.
Monsieur Rasset, on vous remercie beaucoup pour cet aspect historique. On va vous garder, on va parler dans d'autres épisodes. On aimerait savoir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui.